Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est romancière, prix Goncourt et présidente, le plus important pour la fin, du jury du prix du livre Inter 2018. Madame la présidente Leïla Slimani, bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit, madame la présidente, entamez-vous votre mandat à la tête du livre Inter ?
Grisée par le pouvoir, évidemment, de cette présidence. Non, c'est un prix qui est magnifique et adoré par les écrivains, oui. Adoré par les lecteurs. Donc je suis très très heureuse. Très enthousiaste, voilà, j'ai hâte de lire les lettres, les romans. Voilà.
Et comment se passera le travail avec votre première ministre Eva Bettan au micro d'Inter également ?
Écoutez, ma collaboratrice Eva Bettan, voilà, je crois que ça va très très bien se passer entre nous. Elle me donne toutes les infos dont
vous êtes
j'ai
sur
besoin,
le régalien elle rassure, et elle gérera l'intendance.
Voilà.
Est-ce que vous aurez une approche jupitérienne de votre mandat ou souhaitez-vous plutôt être Minerve, déesse, je prends mon élan, de la guerre, de la sagesse, de la stratégie, de l'intelligence, de la pensée élevée, des arts, des lettres, de la musique et de l'industrie?
Oui, Minerve, ça me va bien. Oui, la description du rôle me va très très bien.
Oui, ça rend Jupiter modeste,
voilà,
hein, on est d'accord.
Exactement.
Sacrée responsabilité quand même, hein, blague à part, le prix du livre Inter est le prix de nos auditeurs, ce sont eux qui ont la main, c'est eux qui disent, c'est eux qui décident, vous n'avez aucun pouvoir, c'est presque une ZAD.
Oui, mais en même temps, voilà, on va discuter. Moi, j'ai très envie aussi d'entendre ce que les lecteurs ont à dire, parce que les lecteurs sont souvent encore plus libres que les jurys dits professionnels. Eux, ils s'en fichent complètement de savoir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, la taille des livres, le sujet. Et souvent, d'ailleurs, on est surpris par le choix des lecteurs. Donc moi, je suis très curieuse de les entendre.
Eva Bettan, oui, quel est le rôle, la fonction, le pouvoir, l'influence? Que se passe-t-il dans la coulisse du prix du livre Inter quand on est président ou présidente?
Quand on est président, on a en face de soi 24 jurés et tout le monde se découvre une demi-heure avant. Puisque nous connaissons les gens par leurs lettres, nous ne les avons pas vus, ils ne se connaissent pas entre eux et le président du jury ne les connaît pas non plus. Donc l'alchimie va se faire à la seconde. Et les délibérations durent longtemps, elles durent au minimum 4 heures, 4, 5 heures, quelquefois ça a duré plus. Et donc l'idée c'est que les gens épuisent tout ce qu'ils ont à dire. Et le président, ça va changer selon les personnalités. Je me souviens de Le Clésio, extraordinaire écrivain, et qui me disait « Vous pensez que ça va, Eva ?» Oui, enfin, c'est Le Clésio qui me demande si ça va. « Oui, oui, Jean-Marie, ça va. » Et de s'emprunt au départ, il hésitait à accepter d'être président. Après, il disait « Je veux être président tous les ans, mais on peut pas parce que c'est une seule année. » Donc, il y a la personnalité de la personne, mais je les ai vus tous respecter incroyablement la parole des gens et les faire accoucher. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, vous me faites taire parce que je suis intarissable, à avoir un palmarès avec des jurés
donc...
qui changent.
Vous pouvez parler jusqu'à 9h.
D'avoir quelque chose qui a une cohérence. Vous regardez les prix cette année, ça se tient. Je me tais.
Non, vous pouvez y aller. Leïla Slimani, c'est étonnant, j'imagine, de passer de l'autre côté, de ne pas être romancière au moment d'une rentrée littéraire avec des jurés qui partout lisent votre livre. Mais là, bon, d'encourager à la lecture et d'essayer de distinguer l'un des pairs.
Oui, moi j'ai déjà eu la chance de vivre un tout petit peu une expérience semblable avec, vous savez, les Goncourt à l'étranger. Moi, je l'ai vécu en Roumanie où j'ai aidé les jurys à décider au moment des délibérations, et j'avais vraiment ressenti quelque chose de très fort, de voir d'abord à quel point des gens qui ne sont pas des professionnels de la lecture ont pour autant des choses passionnantes à raconter, arrivent à voir dans des romans des choses que nous qui lisons tout le temps, qui chroniquons, qui écrivons sur les livres, ne voyons parfois plus. Et donc ça rafraîchit aussi beaucoup le regard que nous-mêmes on a sur la littérature. Donc pour moi c'est une expérience aussi intéressante en tant qu'écrivain d'entendre ce que les lecteurs ont à dire sur nos livres.
C'est permanent pour vous le dialogue avec les lecteurs, vous les rencontrez tout le temps?
Ah oui, c'est
j'imagine
permanent.
Qu'on vous arrête souvent dans la rue,
courrier,
qu'on vous envoie du courrier.
Ça m'arrive de...
On vous dit quoi? Il y en a beaucoup hein, qui vont appeler là au standard et qui sont déjà même en train de le faire.
Sincèrement, on me dit des choses très très gentilles et très souvent quand on me demande qu'est-ce que le Goncourt a changé dans ma vie, ce que ça a changé dans ma vie, c'est que j'ai reçu énormément d'amour et que je pense pas que beaucoup de gens aient la chance de recevoir autant d'amour que ce que j'ai reçu. Donc j'ai fait des batteries, j'ai rechargé mes batteries pour tout le reste de ma vie, je crois. Mais j'ai reçu énormément d'amour, de tendresse, de lettres, de gens dans la rue qui simplement parfois posent la main sur votre épaule, qui vous disent merci. Alors ça fait très très bizarre. Voilà, il faut pas se laisser non plus complètement grisé, c'est comme par le pouvoir de la présidence du jury du livre Inter, mais c'est merveilleux de recevoir tout ça.
Minerve est votre nouveau nom, hein. N'oubliez pas Leïla Slimani.
Après, on va me dire, tu m'énerves, Leïla.
Tu m'énerves,
exactement. Je sens les blagues qui vont arriver.
Dites-moi, on vous avait reçu au tout début de cette saison pour votre livre sur la sexualité des femmes au Maroc. Comment celui-là a été reçu là-bas? C'était l'une des questions sur lesquelles on ne pouvait rien dire puisque le livre n'était pas encore sorti. Comment ça s'est passé depuis?
Écoutez, ça s'est bien passé. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que j'étais pas la seule à écrire sur ce sujet-là. Oui. C'est un sujet aujourd'hui sur lequel on écrit beaucoup au Maroc, sur lequel on débat beaucoup. Donc, il y a des sexologues, il y a des sociologues, il y a des journalistes qui ont écrit là-dessus. Et je trouve que les médias marocains ont vraiment joué le jeu parce qu'ils ont invité tout le monde sur des plateaux, à la radio, pour discuter de ça. Et donc, voilà, ça n'est pas en tout cas un sujet tabou sur le plan médiatique. Malheureusement, il y a une vraie stagnation, en revanche, sur le plan législatif. Et j'ai pas le sentiment qu'aucun homme politique ou aucun militant politique n'a pris ces sujets à bras le corps parce qu'ils sont considérés comme trop inflammables et ne rapportant pas grand-chose, en tout cas, sur le plan politique.
Alors, vous avez une activité annexe à côté de la présidence du jury du prix du Livre Inter 2018, c'est que vous êtes la représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie. Blague à part, là encore, quel bilan d'étape faites-vous après 4 mois, un petit peu plus, à occuper ce poste?
Le premier bilan que je ferai, c'est à quel point finalement la francophonie, c'est un concept aujourd'hui qui n'arrive pas, à mobiliser les foules. Un concept un petit peu qui est un peu vieilli, qui est mal connu, qui est un peu poussiéreux. Et je crois qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est d'inventer un avenir à la francophonie. C'est-à-dire que la francophonie, elle a un passé, elle a même un passif. Aujourd'hui, il faut lui inventer un avenir parce que à l'inverse, j'ai beaucoup voyagé depuis 4 mois. Je suis allée en Tunisie. Je suis allée en Inde, je suis allée au Burkina, je suis allée dans beaucoup de pays, en Roumanie, et de voir à quel point, malgré tout, il y a un immense appétit, un immense intérêt pour la langue française, pour la culture française. En Inde, il y a 500 000 personnes aujourd'hui qui apprennent le français. J'ai discuté avec des jeunes qui vont à l'Alliance française, qui ont envie de regarder des films en français, de lire des livres en français. Donc il y a cet immense appétit auquel il faut répondre. Et il y a chez les jeunes, la volonté de parler plein de langues. Aujourd'hui, on n'a pas le même rapport aux langues qu'il y a 40 ans. On est dans un monde mondialisé, on a envie de parler l'anglais, le français, l'espagnol, de consommer entre guillemets de la culture dans toutes ces langues, donc il faut répondre à ça avec la même modernité.
Comment avez-vous reçu la critique très vive, structurée d'Alain Mabankou qui a refusé de contribuer aux travaux de réflexion sur la francophonie comme le lui proposait le président de la République? À lire sa réponse, sa lettre ouverte, on se dit que la francophonie n'a jamais empêché la France-Afrique et comme il le dit très bien, je cite ses mots de mémoire, des dictateurs ont oppressé leur peuple en français. Et donc, il ne souscrit pas, effectivement, à ce concept de la francophonie. Pensez-vous vraiment pouvoir en redéfinir un?
Mais moi, je crois que justement, il faut peut-être essayer de sortir de ces vieux schémas et de sortir d'une vision un peu
postcoloniale.
Postcoloniale, et de se dire aussi qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas que des victimes. Que vous savez, je le vois par exemple par rapport à la littérature, même par rapport à mes livres, où parfois j'ai été critiquée par des gens qui disaient mais pourquoi est-ce qu'elle écrit en français quand André Makine ou quand Kundera écrivent en français ou Beckett, tout le monde trouve ça romantique, tout le monde trouve ça très beau. Quand c'est un Sénégalais, quand c'est une Marocaine, on est des victimes. Ou alors même on est des traîtres, parce qu'on a aussi dans nos propres pays des gens qui nous disent que finalement vous êtes... Ouais. Donc on s'en sort jamais, on est toujours le traître de quelqu'un, on est toujours le bounty d'un autre. Moi je dis, il faut peut-être arrêter avec ça, et la langue à un moment, peut-être que simplement on l'a choisie, peut-être que simplement on l'aime, et peut-être qu'il faut valoriser ce qu'il y a de libre dans notre rapport à la langue. Moi je ne me sens pas ni une traître ni une victime, je ne subis pas la langue française, je l'aime, je la travaille, elle m'intéresse, et je pense que la langue française, elle a de grands poètes partout dans le monde, en Haïti comme au Congo, et il faut peut-être arrêter aussi de ne regarder la langue française et la francophonie qu'à travers ce prisme post-colonial, et c'est pour ça que je dis lui inventer un avenir dans lequel il y a un rapport d'émancipation et de liberté.
Comment on dit francophonie en langage du 21e siècle, soft power?
Non, mais justement, à mon avis, il va falloir réfléchir à ça. Il va falloir trouver un mot, parce que je pense que la francophonie institutionnelle, elle gardera le mot francophonie. Mais une de mes idées, justement, c'est peut-être de créer un groupe de réflexion pour réinventer, un mot, trouver un autre mot.
C'est incroyable, c'est difficile.
Bah oui, c'est difficile, mais c'est intéressant. Et pour Minerve, rien n'est impossible.
Ah mais oui, déesse des arts, des lettres, de la musique, de l'industrie, de la stratégie, de l'intelligence et de la pensée élevée. Oui, vous devriez y arriver. Énormément de questions à vous poser encore, Leïla Slimani. Mais une bonne chose n'arrivant jamais seule, Claude Askolovitch vient de se pointer en studio pour la revue de presse. On vous retrouve juste après avec Eva Bétan, Léa Salamé, les auditeurs d'Inter.